France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Patrick Préjean, un acteur que vous connaissez tous par le cinéma, le théâtre, la télévision ou encore les doublages de dessins animés. Il joue en ce moment le Schmilblick de Pierre Dac au théâtre d'Edgar et il sera avec nous dans quelques instants pour évoquer aussi ses parents, le grand comédien chanteur Albert Préjean et l'actrice Lisiane Rey. Quant à ceux d'entre vous qui comptent voter demain et dont le cœur balance au sujet d'une certaine primaire, eh bien je leur rappellerai que le choix entre deux hommes est aussi l'une des grandes affaires de l'opérette, démonstration en chanson.
De sa nature, mais le second embrasse mieux, ça j'en suis sûre. Le premier me séduit assez par l'uniforme, mais le second sait bien danser, ça c'est énorme. Le premier est très méritant, il m'en impose, mais le second n'a que 20 ans, c'est quelque chose. Quel problème, j'ai beau m'interroger tout bas, je ne sais pas quel est celui qu'il faut que j'aime. Tous les deux me plaisent, mon cas est bien embarrassant, je sens mon cœur entre deux parenthèses, mon Dieu qu'on est mal à son aise. Quand on a comme soupirant un commandant, un aspirant de la marine française. Tous les deux me plaisent, mais je ne peux. Mais vous le partageant un peu, donnez mon cœur à tous les deux. Ils ont leurs qualités, chacun leurs avantages, mais je ne puis en prendre qu'un, et c'est dommage. Choisissant qu'il ne faut pas faire de boulettes, car plus tard, si l'on se trompe, on le regrette. On n'est jamais assez prudent quand on se marie. Lorsque l'on s'est fichu dedans, c'est pour la vie. Femme dévole, en songeant qu'il n'existe pas, afin de diriger nos pas vers le bonheur. Une boussole. Tous les deux me plaisent, mon corps est bien embarrassant. Je sens mon cœur entre deux parenthèses, mon Dieu qu'on est mal à son aise. Quand on a comme soupirant un commandant, un aspirant de la marine française.
Et oui, toutes les questions sont posées dans ce petit air extrait de Coup de roulis de messager chanté par Jacqueline Francel qui hésite entre le plus vieux, plus sérieux, le plus jeune, plus séduisant. Ah, que c'est compliqué. Il y a beaucoup de duos du genre dans l'opérette, à moins effectivement, comme elle nous le suggérait d'ailleurs dans la conclusion, de faire comme Yvonne Printemps dans L'amour masqué, c'est-à-dire de prendre les deux à la fois. J'ai deux amants. C'est beaucoup mieux. On retrouvera Yvonne Printemps à la fin de l'émission avec un document rare au sujet du pot-pourri d'Alain Gerbaud.
Thank you.
Mais qu'est-ce donc que cette jolie et subtile musique de divertissement? Eh bien, je crois pas que beaucoup la connaissent, malheureusement, d'ailleurs, parce que c'est un très joli ballet, Les Dames de la Lune, La Dame, pardon, de la Lune, de Jean Français, ici par l'Orchestre National, sous la direction de Manuel Rosenthal. Jean Français qui nous aura quittés il y a bientôt 20 ans, c'était en 1997, j'espère qu'on n'oubliera pas de le fêter l'année prochaine.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais nous avons pour le rendez-vous avec mon invité, un invité que vous connaissez tous, je le disais, par le cinéma, le théâtre, la télévision, les voix de doublage, et puis un invité qui est le fils de deux très grands artistes, Albert Préjean et Lisiane Rey, je pense qu'il nous en parlera aussi. Il est en ce moment au théâtre d'Edgar à Montparnasse dans le Schmilblick de Pierre Dac. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Préjean.
La 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 la, la 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 la, une chanson ça vient comme ça. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, c'est le ciel qui vous l'envoie. La 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 la, la 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 la, une chanson ça vient comme ça. On ne sait jamais jusqu'où volera la chanson qui est venue comme ça.
Quelques notes, quelques mots, une guitare et un stylo.
Et le tube se balade dans tous les hit parades.
Où le moteur est grippé,
on remballe tous ses râpés.
La 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 la, la 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 la, une chanson ça vient comme ça. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, c'est le ciel qui vous l'envoie. La 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 la, la 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 la, une chanson ça vient comme ça. On ne sait jamais jusqu'où volera la chanson qui est venue comme ça.
Bonjour Patrick Préjean.
Bonjour.
Ah ben je me demandais si vous vous rappeliez, mais alors tout de suite vous avez commencé à chanter.
Oui, oui, vous savez, il y a des moments qui marquent.
Hein. Ah oui.
Ça, c'était une des premières comédies musicales un peu à l'américaine.
Oui, en 82.
En 82.
Alors vous étiez un des deux messieurs qui entourent Annie Cordy, là. C'est l'autre ça. Était Gérard Chambre. Et vous faisiez quelques claquettes.
On faisait un tas de trucs là-dedans. On s'est totalement éclaté avec Annie, qui est une artiste magnifique.
Extraordinaire. Ça s'appelait Envoyer la musique.
Envoyer la musique.
À la Porte Saint-Martin.
Oui.
C'était un beau souvenir pour vous.
Ah, c'est un très très bon souvenir. Et puis ça me donnait l'occasion de faire ce que j'ai fait de temps en temps, mais de le faire pendant tout un grand spectacle, chanter, danser, jouer la comédie.
Ah voilà, les trois. Justement, Patrick Préjean, je suis très heureux de vous recevoir parce que, évidemment, depuis longtemps, je m'étais dit, je devrais l'inviter, il a fait tant de choses au cinéma, au théâtre, à la télévision, et puis en plus, on y reviendra, c'est le fils de deux grands chanteurs, acteurs, on va parler de tout ça, mais j'avais pas réalisé que vous aviez quand même, vous-même, participé à pas mal de spectacles musicaux,
oui.
Et en commençant à étudier votre biographie, j'ai vu, vous avez fait pas mal d'opérettes, vous avez fait La Belle Hélène, vous avez fait du Maurice Yvain, Tabouche, vous avez fait des comédies musicales, ça a toujours été présent dans votre...
Signé Boris Vian aussi. Oui, ça a toujours été présent dans ma vie. Je pense que si j'étais né outre-Atlantique, ma carrière aurait été différente.
Plus tournée peut-être vers le musical, comme on dit là-bas.
Peut-être. Oui. En tout cas, j'étais passionné, j'ai applaudi, j'ai rêvé toute ma tendre enfance et mon adolescence avec toutes les comédies musicales de Fred Astaire, Gene Kelly.
Ça a été une des sources pour vous de l'enchantement du spectacle.
C'est comme vous dites. Voilà. Il faut employer le mot enchantement.
Oui.
Pour moi, Fred Astaire et Gene Kelly étaient des enchanteurs et des bienfaiteurs de l'humanité.
Et vous êtes bon aux claquettes, vous ?
J'ai été bon, j'ai certainement un peu perdu. Là, je me prendrai les pieds dans le tapis, là, très 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 vite.
Vous aimez chanter ?
Oui, j'adore chanter.
Vous avez travaillé le chant, la musique, d'une certaine façon ?
Un petit peu, mais j'ai eu la chance de me commettre avec des acteurs-chanteurs qui avaient beaucoup de talent et qui m'ont donné d'excellents conseils, notamment Dans ta bouche, avec Bernard Lavalette, Perrette Souplex.
Qu'on salue d'ailleurs tous les deux, qui nous écoutent.
Bien sûr.
La musique en plus, je crois, est assez importante dans votre vie, le jazz notamment.
Le jazz est à la source de beaucoup d'inspiration musicale, d'un amour de la musique. Le jazz et la musique brésilienne.
Oui.
C'est ma maman surtout. et son deuxième époux, Luc Barnet,
dont on va parler,
qui était
également
un grand chanteur d'opérette, et qui m'ont donné un peu la notion du jazz sous beaucoup de ses formes.
Alors, on va revenir à tout ça, Patrick Préjean. On va commencer par écouter une chanson qui, je crois, évoque très précisément pour vous vos jeunes années.
Paris, un petit séjour d'un mois, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
Belle chanson. Merci de l'avoir ressorti pour
magnifique
moi, si j'ose
chanson.
Dire, Patrick Préjean, parce que c'était Charles Trenet, bien sûr, en 47 avec l'orchestre Albert Lasry. En 47, vous n'étiez pas bien vieux.
J'étais pas bien vieux. Mais moi, je l'ai entendu. Je devais avoir 6-7 ans.
Ouais.
J'ai voulu la mettre à votre programme parce que c'est une des premières émotions visibles dans le regard et dans le visage de mon père que j'ai vu, que j'ai pu interpréter et recevoir.
Alors votre père, Albert Préjean, pourquoi il écoutait cette chanson?
Il l'aimait écoutait beaucoup. Cette chanson, il l'aimait beaucoup, parce qu'il en a bavé, comme beaucoup de Français, justement,
ouais,
avec les deux guerres qui se sont tapées.
Ouais.
Et les paroles de cette chanson,
oui, c'est
d'un
du
seul
renouveau,
coup,
oui, c'est
du renouveau. Et les mecs partaient en permission, et pendant un mois, ils pouvaient rester là et retrouver la poésie, le charme, les bras des êtres aimés. Et je trouve ça très émouvant et très fort.
Alors justement, votre père, donc Albert Préjean, c'est une des plus grandes vedettes du cinéma français, notamment d'ailleurs, j'insiste puisqu'on est sur France Musique, du cinéma chantant. C'était un fou de chansons,
il a énormément chanté. Il a fait le premier film français parlant.
Oui.
De René Clair, Sous les toits de Paris.
Où il chante la chanson
où titre. Où il chante la, Sous les toits de Paris, la 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 la. Et il y avait aux États-Unis le chanteur de jazz.
Ouais.
Et en France, il y avait Sous les toits de Paris.
Ça lui était venu comment, ce goût de la musique? Enfin, c'était pour, il avait appris les deux métiers parallèlement ou c'est le hasard du cinéma qui l'a fait chanter?
Je pense que c'est le hasard du cinéma, mais c'est aussi, il avait déjà tourné avec René Clair.
Ouais.
Et il correspondait au personnage que René Clair voulait mettre en scène, chanteur des rues, comme ça, avec toute la poésie parisienne.
Mais après, il en a fait des quantités. Je me rappelle, par exemple, un Dédé.
Oui, Dédé la musique. Oui, 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 oui.
Où il joue avec Daniel Darieux.
Oui, bien sûr.
Le rôle créé par Maurice Chevalier.
Oui, 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 oui. Il a fait beaucoup, beaucoup d'opérettes et beaucoup de tours de chant aussi, en chantant et en racontant des histoires.
Qu'est-ce que vous admirez le plus dans la carrière d'Albert Préjean, votre père?
J'aime vraiment tout ce qu'il a fait,
ouais.
Mais s'il fallait ressortir quelque chose,
ouais.
Je suis très client de toute sa carrière, c'est un immense artiste, mais c'est la qualité du père que je ressortirais.
Oui.
Ouais, ouais, ouais.
C'était un homme attentif
Plus qu'attentif, c'était le père idéal.
Il vous a emmené voir Laurel et Hardy quand vous étiez petit.
Oui,
mais en vrai, les vrais, pas au cinéma.
Oui, je les ai vus à la kermesse aux étoiles, bravo, au Jardin des Tuileries.
Vous leur avez parlé alors?
Je leur ai parlé. Mais je comprenais pas tellement ce qu'ils me disaient puisqu'ils parlaient anglais, mais je leur ai parlé et c'est effectivement, je les ai vus à la kermesse aux étoiles et au théâtre de l'Empire.
Donc votre père s'occupait de vous, il n'était pas tout à sa carrière comme souvent les artistes.
Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis un fils à papa privilégié parce que par moments ça fait du dégât dans certaines familles du spectacle, les parents peuvent faire du dégât.
Alors il y a aussi un moment quand même très important dans la carrière d'Albert Préjean, c'est ce film extraordinaire qui a été tourné à la fois en allemand et en français qui est l'Opéra de Katsu.
L'Opéra de Katsu
de Kurt Weill et Bertolt Brecht, tourné au cinéma par Pabst. Oui, oui, oui. C'était quelque chose qui l'avait marqué
énormément marqué. Et la conception de Pabst, qui était déjà très avant-gardiste par rapport au personnage de l'Opéra de Katsu, il demandait à ses personnages de se comporter un peu comme des marionnettes.
Justement, on a retrouvé un petit document de l'émission La Joie de Vivre. Vous savez, c'était la grande émission de variété d'Henri Spade.
Ouais.
Et dans ce numéro de La Joie de Vivre de 1953, votre père évoque justement quelques souvenirs du tournage de l'Opéra de Katsu.
Ah, d'accord, vas-y papa.
avant de demander à Albert Préjean de nous chanter une chanson de ce temps-là, Albert, ce film et l'ambiance de l'Opéra de Katsu apportaient quelque chose vraiment de neuf à l'époque.
Ah, complètement. Alors,
est-ce que vous-même avez eu le sentiment, vous et les interprètes et vos camarades, avez-vous eu le sentiment vraiment de cette chose étrange que l'Opéra de Katsu apportait?
Non, pas la première fois, il faut être très franc. La première fois, je tournais à Berlin et Pabst était arrivé en me disant « Mon cher Préjean, j'ai eu un canon pour vous formidable, c'est l'Opéra de Katsu ». Alors, je ne savais pas, ça s'appelait Dreigroschenoper, je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement. Et il m'a dit, venez voir ça au théâtre, c'est formidable. Et je suis arrivé au théâtre le soir, et c'était justement Rudolf Forster, le type qui faisait la version allemande, qui jouait dans la pièce. Et alors, j'ai vu le début de la pièce avec des personnages extraordinaires qui jouaient comme ça, comme des automates, vous savez. Je me suis dit, c'est tout de même curieux, cette histoire-là. Puis là, j'ai entendu la musique. Alors ça, la musique m'avait beaucoup frappé. Mais alors, je n'avais strictement rien à la fin du premier acte, compris un seul mot, il faut dire que je ne parlais pas allemand aussi. Alors en sortant, Pabst me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je lui dis, mon cher, je vais être franc avec vous, je n'y comprends strictement rien. Alors il me dit, mais pourquoi les acteurs jouent comme ça, ce genre de saccadé? Il me dit, mais mon cher, ce sont les marionnettes de la vie. Oh, mais j'ai tout compris, c'est fini. Allez, je tourne l'Opéra de Katsu, c'est fini. Alors Kurt Weill m'a fait écouter les musiques, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça formidable. Et après, nous avons eu vraiment l'impression de faire une grande chose. On ne se sommes pas trompés, tu vois. C'est fantastique parce que ça a fait un saut, vous rendez compte, ça. La première musique de l'Opéra de Katsu a tellement été une nouveauté, une révolution, que même moi, quand j'ai entendu les airs, c'était les premières dissonances que l'on entendait, je ne comprenais pas si vraiment c'était vraiment tellement musical.
Sur les grands hommes, on compte des blagues pures. On dit qu'ils ne parlent que de littérature. Dans des greniers remplis de rats immondes. Tout ça, c'est des bobards pour duper le monde. Bon pour le crâne, au pauvre couillon. Moi, j'en ai marre de vivre sans pognon. tous les oiseaux d'ici en Babylone ne trouveraient pas cette pâture bonne. Vous pouvez me croire, ne vous en déplaise, il n'est trésor que de vivre à son aise. On nous cite les coureurs d'aventure qui pour la vertu se font la vie dure. Pour l'idéal, ils souffrent le martyr, afin que leur concierge ait des trucs à lire. On se les représente se couchant le soir avec leur femme qui est un vrai repoussoir et dont l'ambition tout juste s'étend à vivre avec 5000 francs par an. Quel pauvre bougre, ne vous en déplaise, il n'est trésor que de vivre à son aise.
La balade de la vie agréable de Kurt Weill et Bertolt Brecht.
C'était très avant-gardiste, Kurt Weill, hein, musicalement.
Bien sûr.
Oh là là.
Et politiquement.
Oui, et politiquement, bien sûr. Mais ça a influencé après l'opéra de Katsu, l'air principal, Mike the Knife, inspiré d'Armstrong,
bien sûr, Fitzgerald. Tout le monde l'a repris.
Tout le monde l'a repris. Et mon père m'avait amené un des premiers micro-sillons de Bobby Darin, qui chantait justement My The Knife. Il m'avait dit, écoute ça, toi avec ta jeunesse, tu vas voir comment ils ont transformé ça. C'est très différent, mais moi je suis emballé.
Il avait un vrai goût de la musique, Albert
Préjean,
votre
bien
père.
Sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il vaut mieux quand on est chanteur. Mais il était totalement sincère. Ça l'est pas toujours. Des fois, on part, on devient chanteur, et puis bon, c'est comme ça.
Bon, ça, c'est en 1933. Donc, film tourné d'ailleurs en français et en allemand, hein.
Oui, oui, oui.
Et alors, bon, on sait qu'après, beaucoup de vedettes du cinéma français de l'époque ont continué à leur carrière, forcément, pendant l'occupation. Mm-hmm. Votre père, avec d'autres comme Darieux, Delair, a fait le voyage en Allemagne. On leur a beaucoup reproché. Qu'est-ce que vous en pensez avec la distance et comment lui a voyé ça après la guerre, cette période sans doute difficile?
Ben, il a été très marqué parce que il n'avait absolument. Bon, je crois qu'il a fait une connerie. Il s'est fait influencer bêtement par des mecs qui ont dû bien lui parler lui faire croire des choses qui n'existaient pas. Et ils se sont fait embarquer dans un truc qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, mais qu'on leur a reproché avec des arguments vraiment très extrêmes, très méchants, et ça l'a beaucoup fait souffrir. Alors c'était un héros de guerre, papa, et il a eu la croix de guerre par des citations, juste uniquement des citations de sauvetage de ses camarades dans les tranchées en 14 et tout. Donc vous voyez, il n'était pas suspect de faire des choses répréhensibles.
En tout cas, sa carrière a finalement repris après la guerre.
Complètement, il a été complètement blanchi.
Il était très
il était marqué, on n'a rien à lui reprocher. Voilà.
Il a fait beaucoup de films encore dans les années 50, et peut-être moins de films chantants, mais en tout cas beaucoup de rôles importants.
Et je peux dire une toute petite chose. Il y a certaines personnes de notre métier qui sont empressées automatiquement par jalousie, parce que de faire un tribunal pour essayer de condamner ces acteurs, et ils n'y sont pas arrivés, mais ça montre à quel point certains peuvent se conduire d'une façon là vraiment dégueulasse.
Oui, oui. On sait ça effectivement pour cette période très sombre et difficile. Il faut dire que vous êtes né quasiment le jour du débarquement. Hein.
J'ai anticipé, monsieur. J'ai anticipé. Ma maman m'a parachuté avant les Américains.
Deux jours avant.
À la Varenne Saint-Hilaire.
Dont il était question dans la chanson de Trenet tout à l'heure.
Dans la chanson de Trenet, oui.
Eh bien, votre maman, tiens, on va la retrouver tout de suite en chanson. On a fait un petit mixage avec deux morceaux, votre père et votre mère. Votre père, on va écouter la fameuse chanson « Amusez-vous, foutez-vous tout ».
Oui.
Vous l'aimez particulièrement, celle-ci?
J'aime bien parce que c'est une façon de voir la vie à laquelle mon père était très attaché, dans la direction de laquelle il voulait m'entraîner.
Vous pour que la vie soit toujours belle. Ah, que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles et vous dirait que tout va bien. Pour ne montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait les héritages. C'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ça serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs: amusez-vous, foutez-vous tous, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, commodez-vous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Et zoom.
Depuis que je suis entrée dans la vie, je ne vis plus. Les hommes me lorgnent, ma guiche me sourit, je n'en puis plus, mais plus. Vraiment, ça n'est pas une existence. D'autres que moi se fâchent ou s'offensent. Il suffit de garder ses distances. C'est très utile, surtout quand on danse. Mamselle Ribop, Mamselle Ribop, tout le monde m'appelle Mamselle Ribop. Les rythmes et les pas n'ont pas de secret pour moi. Je danse et chante à pleine voix ma joie. Mamselle Ribop, Mamselle Ribop, les hommes autour de moi galopent. On me compare au bayadère de Chandernagor. On dit que j'ai la déesse d'encore le corps à moi. Tous les mots d'amour et les sérénades de tous les troubadours. À ceux qui me font la cour, je leur dis tout court: monsieur, votre cour me court. Mamselle Ribop, Mamselle Ribop, rien ne les freine, rien ne les stoppe. J'ai beau faire fi de tous leurs voluptueux discours, je sens sur moi leur regard lourd d'amour. Mais moi je danse et chante toujours.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
La plus belle rousse de Paris, c'est ça? C'est comme
exactement
ça qu'on l'appelait, Albert Préjean, votre mère Lisiane Ray.
Étonnez-moi Benoît, c'est vrai alors? Bah,
écoutez,
vous connaissiez ça?
Je prépare un peu quand
c'est
même.
C'est vrai.
Non, je vais vous dire franchement, j'admire depuis longtemps Albert Préjean. Je connaissais pas bien Lisiane Ray, mais j'avais quand même quelques chansons dans un coffret consacré à Bruno Cocatrix. Et donc, cette opérette que j'aimais, qui s'appelle Le Maharaja, dans laquelle Bourvil chante plusieurs chansons, et votre mère joue le rôle féminin.
Exactement, et Le Maharaja est ma première entrée en scène.
Mais dans le public?
Non, de mon existence.
Sur scène?
Sur scène.
Ah oui?
Car ma maman, j'avais 3 ans.
Ben oui,
et je m'en souviens, je m'en souviens un peu.
Ah oui?
Et nous étions à Bruxelles, ma maman m'avait emmené avec ma grand-mère, Nanny. Nous étions à l'hôtel et maman jouait en matinée à l'ABC, Le Maharaja avec Bourvil. Et on va voir le spectacle, on était dans la salle et à l'entracte, on monte voir maman dans la loge. Et puis en passant, on passe par le plateau où il y avait les décors en carton, en bois. Il y avait une ferme normande, je me rappelle. Et on va dans la loge. Hein. Et pendant que ma grand-mère et ma maman discutaient, moi, ça m'avait intéressé, cet endroit obscur où il y avait des arbres en carton. Et je me suis débiné, je suis descendu. Et je me suis retrouvé, je ne savais pas, mais j'étais sur le plateau.
Ah, voilà.
Et j'ai été voir tout ça avec admiration, ça me paraissait très curieux. Et pendant ce temps-là, elle devait me chercher partout, elle savait pas où j'étais, et le spectacle reprend. Et d'un seul coup, j'entends de la musique, j'étais sur le plateau, 3 ans, hein, et je vois un rideau se lever devant moi, je suis inondé de lumière, et là, après on m'a raconté... Il y a une voix qui entre en scène qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-le, c'est le fils de ma partenaire. Viens ici, mon petit garçon. Et tout le monde a applaudi. Et ça a été mes premiers applaudissements et mes vrais débuts au théâtre.
Et qui avait dit ça? C'était Bourvil?
C'était Bourvil.
Oui, avec bien qui sûr. Vous alliez jouer des années plus tard.
Exactement. Et c'était Bourvil.
C'est formidable.
C'est marrant, hein?
Comment est-ce que vous résumeriez, alors pour le coup, la carrière de Lisiane Ray, votre mère?
Lisiane Ray a fait une très belle carrière. Elle chantait aussi. C'était une meneuse de revue. Elle a fait du cinéma.
Elle avait commencé dans une revue de Marie Dubas, oui. Un peu avant la guerre. Oui. Et elle a connu votre père ensuite.
C'est ça. Et c'était une très très jeune maman. Elle m'a eu à 18 ans et demi, je crois.
Ah
oui, 18 ans et demi, 19 ans. Elle était belle, maman. C'était un tempérament formidable. Elle avait énormément de comique en elle, une présence extraordinaire. Et puis,
alors on dirait aujourd'hui un père acteur chanteur, une mère actrice chanteuse. Ouais. Aujourd'hui, forcément, le fils va faire du cinéma et de la chanson.
Oui, aujourd'hui, forcément.
Aujourd'hui.
Oui.
Là,
oui,
c'était pas si,
ah non,
si évident
pas
que
tout,
ça.
Pas du non. tout. C'était même pas évident.
Oui.
Mais ils m'ont fait une enfance merveilleuse, mes parents.
Ils sont pas restés ensemble.
Ils sont pas restés ensemble. Elle est tombée amoureuse de Luc Barnet.
Voilà.
Et puis, ils adoraient leur fils. Et il est arrivé une chose absolument incroyable, d'une modernité rare. Vers l'âge de 8-9 ans, il me sentait un peu tiraillé entre l'un et l'autre,
ouais.
Comme tous les enfants de divorcés. Papa a acheté une grande maison à Vaucresson.
Ouais.
Ils se sont réunis dans cette grande maison. Luc Barnet et maman habitaient le premier étage.
Ah, oui.
Albert Préjean et votre serviteur le second étage. Et nous nous réunissions tous dans la salle commune.
C'est formidable.
Pour dîner, pour déjeuner ensemble et pour passer d'excellents moments. Donc j'ai eu une vraie famille. Un peu disparate, un peu bizarre. Mais bon, ça n'était pas pour me déplaire.
Ah, c'est magique.
J'en ai tiré que les bons côtés, en fait.
Le modèle de la famille recomposée
oui,
idéal.
Oui, oui. Je vous laisse imaginer ce qu'on a dû dire à cette époque sur ce qui se passait dans la villa à Vaucresson.
Un mot justement avant de revenir à votre carrière, Patrick Préjean, un mot de Luc Barnet.
Oui.
C'est un homme que vous aimiez bien, donc
que
bien qu'il
beaucoup,
soit
beaucoup.
Le mari de votre mère.
J'ai été élevé par trois personnes.
Oui.
Qui se tirait pas du tout la bourre, puisqu'il voulait conserver cet équilibre.
Oui.
Après, les choses ont basculé
oui.
quand j'ai eu 18 ans. Ça me paraît oui. absolument normal. Et mon père a été baptisé très tard.
Oui.
Moi, j'ai été baptisé en même temps que mon père, c'est-à-dire assez tard aussi. Oui. Et papa est devenu le parrain du deuxième fils de maman et de Luc Barnet.
Voilà.
Et Luc Barnet a été mon parrain.
Ah, ben
c'est pas exceptionnel, ça?
Lui, c'était vraiment alors une grande vedette de l'opérette. Hein.
Ah, grande vedette de l'opérette. Il a fait un succès colossal avec l'Auberge du Cheval Blanc, que
ben
tout
voilà.
le monde, que tous vos auditeurs et vos auditrices connaissent.
Oui, mais enfin, pour au cas où ils ne connaîtraient pas, justement.
Ah, ah.
Mesdames et messieurs, quelle impatience! Sachez que l'on va moins vite en se hâtant. Messieurs, dames, croyez-en mon expérience. À quoi bon se presser, n'avons-nous pas le temps? Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne le trouvez-vous pas à l'amour tout pareil? Il nous grise de sa douceur, c'est la joie, c'est le bonheur. Allons, mesdames et messieurs, soyez heureux. Café bien chaud, du thé bouillant, un mot d'amour non moins brûlant. Avec sourire à la cliente, ça vous fera 2 francs 50. Mouton braisé et le baiser du beau garçon, 3 francs tout rond. Une tasse de lait dans un grand bol. La voilà, la voilà, la voilà. La voilà, la voilà, la voilà. Voilà, voilà, je suis là. Oh, mesdames et messieurs, j'ai beau me débattre, je vous le redis pour la 10e fois. Mais je ne peux pourtant pas me couper en 4. Je deviens sourd car vous criez comme des putois. Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne le trouvez attire beaucoup moins des gens en leur crevant, en le tapant. Oh, oh là 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 là, parlez sur un ton plus doux. Où taisez-vous? Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne le trouvez-vous pas au pourboire tout pareil? Le pourboire est notre bonheur, notre joie, un malheur. Ils ne laisseront pas un retard. Tous ces radars.
Nous ne laisserons pas un retard.
Ah, il avait un charme fou, Luc.
Oui, Luc Barnet. Dans l'auberge du Cheval Blanc en 1953, vous n'étiez pas encore très vieux, Patrick
Préjean.
Non, mais
ils ont fait mon éducation, j'ai été élevé par la, entre guillemets, la Sainte Trinité.
Ouais, ouais.
Et Luc m'emmenait, il jouait à l'auberge quand j'étais tout petit, et je connaissais l'auberge par cœur, car il m'emmenait dans les coulisses et dans la salle tous les dimanches.
Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Et j'étais...
C'était où alors?
C'était au Châtelet.
Au Châtelet.
Avec grande composition artistique, il y avait je ne sais combien de personnes sur scène, 30 tableaux, toute la profondeur.
Ouais,
c'était magique. J'ai vraiment évolué dans un milieu qui m'en mettait plein la vue. Je prenais des paillettes sans arrêt. Et après, ils m'ont aussi montré les côtés, les aspects plus difficiles, plus délicats du métier. Donc, ils m'ont construit en tant qu'homme d'une façon qui n'est peut-être pas... Allez, la meilleure, car on est les choses les meilleures arrivent rarement, mais proche de quelque chose de la meilleure.
En tout cas, Patrick Préjean, ils ne vous ont pas obligé à devenir comédien.
Non.
Vous n'avez pas senti que c'était une nécessité, mais vous avez eu envie assez vite. Vous avez même travaillé. J'ai reçu ici, il y a quelques mois, Alexis Grus.
Oh bah, il était au théâtre l'autre jour, il est venu me voir, c'est mon grand frère.
Vous les avez connus très jeunes, les Grus.
On s'est connus, on avait 8 ans avec Alexis.
Ah voilà.
Ouais, oui. Mais j'ai commencé au cirque.
Et vous avez commencé au cirque, 13-14 ans. Votre première vocation, c'est le cirque.
Oui, papa était monsieur loyal chez Jean Richard.
Ouais.
Et Alexis Grus, senior, l'oncle d'Alexis, m'a offert un costume de cow-boy. Je les regardais tous en piste faire les jeux du Far West. Ils m'ont appris à monter à cheval, à faire du lasso, du fouet. Et je suis entré avec toute la famille des Grus sur la piste du cirque Jean Richard. Et je devais avoir 12-13 ans.
Alors vous n'avez pas pensé à faire une école de cirque?
Non. Ça a été un atout supplémentaire.
À quel moment vous avez voulu vraiment devenir comédien alors?
Oh, très tôt.
Très tôt.
J'ai pratiquement toujours eu envie de devenir comédien.
Et vous êtes entré dans des cours alors pour étudier sérieusement.
Hein. Chez Jean Périmoni.
Voilà.
Après j'ai eu Robert Manuel comme prof au conservatoire. J'ai fait le Sandin dramatique de la rue Blanche. Et vous parliez tout à l'heure des fils à papa, des fois. Qui se sentent peut-être un peu forcés de faire ce métier.
Ouais.
Je me rappelle de Robert Manuel qui nous disait, quand il voyait des élèves qui faisaient un peu la gueule pour passer le matin tôt au conservatoire, il disait, mais écoutez, si vos parents vous ont forcé à faire ce métier, dites-le moi, nous irons ensemble au commissariat déposer une plainte.
C'est joli. Si vous deviez dire à quel moment vous avez vraiment commencé le métier, ce serait...
J'ai commencé le métier dans ma tête. Très tôt, vers 7-8 ans.
Non, mais le premier spectacle important.
Le premier spectacle important, c'est aussi une anecdote, puisque j'ai commencé avec ma mère. L'Ilium de Ferenc Molnár, mise en scène par Jean-Pierre Grenier, avec Jacques Mauclair et Félix Martin, qui est une pièce un peu surréaliste, et pleine de charme, pièce tchèque. J'étais au Centre d'art dramatique de la rue Blanche et ma mère m'a dit « il y a des auditions pour des petits rôles ». Je suis allé passer une audition sans lui dire, j'ai été choisi et après je vous dis pas la surprise en rentrant chez moi le soir et l'explosion de bonheur.
Et parmi les premiers spectacles dans lesquels vous avez joué aussi, je garde le film musical, puisque nous sommes sur France Musique,
oui.
Bien, il y a eu Monsieur Carnaval.
Ah, Monsieur Carnaval.
Voilà, là une opérette à nouveau de Charles Aznavour.
Oui. Et
Frédéric Dard, dans laquelle vous avez été engagé.
J'ai été engagé. Ça a préludé un film important, puisque c'est en allant voir une opérette comme quoi les metteurs en scène n'ont pas toujours des œillères, comme certains qui cherchent des emplois absolus, toujours dans le même milieu. Costa Gavras était dans la salle et il m'a engagé pour tourner Un homme de trop.
Et oui, c'est comme ça que vous avez
en
fait
allant voir Monsieur Carnaval. C'est pas mal. Hein.
Alors, on va revenir au cinéma, mais Monsieur Carnaval, c'était un bon souvenir?
Ah oui. Là, vous êtes tombé sur tous les bons souvenirs. Hein. Ouais.
C'est Jean Richard, Georges Guettari, Eliane Varon.
Et puis.
C'était quoi votre rôle, vous?
J'avais deux rôles. Je jouais un flic totalement débile qui s'appelait Landauffé, je crois. Et après, je jouais une sorte de petite crapule qui faisait un scandale à Patricia Karim parce qu'on avait mis du sucre en poudre dans son réservoir.
Alors ça, c'était en 1965. Et on va vous retrouver encore. Je crois que c'est vous qui chantez au début dans ce quatuor extrait.
Ah, ta bouche.
Non, de Monsieur Carnaval.
Ah bon?
Ah.
Alors là...
Moi si j'avais un beau jour de 100 millions de cailloux, pour mon goût c'est un peu beaucoup, mais je pourrais me payer toute la panoplie de melons et de parapluies. J'achèterais des milliers de chaussures à clous, carrées du bout et en cuir doux, pour cavaler à mon aise après les filous. Avec 200 millions de cailloux.
Moi si j'avais un beau jour de 100 millions de cailloux, pour le coup ça changerait tout, car ce serait à mon tour d'un flamant personnel, mon hôtel et mon bison miel. Et je dirais, affirmez, voulez-vous veiller, si ma voiture est avancée, vous seriez tous à mes pieds.
Si j'avais un beau jour de 100 millions de cailloux, pour le coup j'en deviendrais fou. J'aurais trop peur d'être zigouillé par les voleurs. J'en mourrais d'un arrêt du cœur. Toutes les nuits j'irai voir dans mon coffre-fort si mon trésor y est encore. Je ne crois pas être fait pour tenir le coup avec 200 millions de cailloux.
Quand on veut barboter de 100 millions cailloux, faut surtout pas rater son coup. Sinon c'est sûr, tu en prends pour 20 ans mon bonhomme. Vu la somme, c'est un minimum. Et un matin, tu es bon pour te réveiller, vêtu d'un beau costume rayé, en train de gosser au soleil et un petit coup. Casser 200 millions de cailloux.
Mais quand on veut barboter 200 millions de cailloux, faut surtout pas rater son coup. Sinon c'est sûr, tu en vends pour 20 ans mon bonhomme. Vu la somme, c'est un minimum. Et un matin, tu es bon pour te réveiller, vêtu d'un beau costume rayé, en train de casser.
Monsieur Carnaval, là, vous êtes vraiment surpris, là, hein, Patrick Préjean.
Vous me replongez dans une époque.
La saison 65-66 au Châtelet.
Ouais.
Et donc, musique d'Aznavour, et on l'a dit aussi, scénario livré de Frédéric Dard qui a suivi la production de près.
Ah oui, de près. Je connaissais bien Frédéric.
Comment vous le connaissiez?
Parce qu'il était très pote avec mon père, il admirait mon père. Et on s'est connus, j'étais très très jeune. Et puis on est restés après très amis. Et quand j'étais chez Robert Hossein, j'ai joué deux spectacles de lui. Pas d'orchidée pour Miss Blandiche.
Bien sûr.
Avec Jean-Marie Prolier qui jouait ma mère exceptionnellement. On y croyait complètement. Et puis le cauchemar de Bella Manningham. Oui, oui, oui.
Alors, vous avez cité aussi Costa Gavras pour parler de vos débuts au cinéma. Alors, on ne va pas citer le nombre de films que vous avez fait. D'ailleurs, ouais, je ne sais pas si vous le savez.
Non, je ne sais pas. Parfois, je regarde un peu. Il m'est arrivé de regarder toute ma...
Votre
ma filmographie,
la télé, le théâtre.
Ma théâtrographie.
Voxographie. J'ai découvert ce terme avec vous.
Oui, oui.
Mais en tout cas, au cinéma, bon, tout le monde connaît des succès comme Le Cerveau, comme Le Tatoué, comme Le Gendarme et les Gendarmettes d'autres. Et là aussi, vous avez retrouvé des amis de vos parents, j'imagine, où ils se connaissaient. Quand vous avez tourné avec Gabin, par exemple.
Bah oui, Gabin était très pote avec mon père.
Ouais.
Non, mais c'est-à-dire que moi, j'arrive à être à cheval sur plusieurs générations. Parce que je les ai tous connus quand j'étais petit.
Oui.
Et même quand ils n'étaient plus là, tout ça m'a nourri. Tout ça m'a donné l'envie. Mais l'envie est aussi une nourriture pour essayer de progresser et d'atteindre l'inaccessible étoile.
Ouais.
Ça doit être un but. On n'y arrive jamais. Mais c'est un but de l'atteindre.
Parmi ceux que vous avez quand même le plus aimé,
Jean-Richard, très important. J'ai adoré tourner avec Bardot et Cardinal.
Oui.
Cardinal.
Ça, c'était
Les Pétroleuses.
Voilà.
Brialy, Bruno Kremer.
Et puis Bourvil.
Et Bourvil. Bourvil, je pense que c'est un des exemples les plus marquants. C'était un immense acteur. Et j'ai toujours rêvé de faire une carrière aussi diverse que la sienne.
C'est ça.
Et j'ai de la chance parce que c'est un peu ce qui arrive.
Voilà, pouvoir être à la fois tendre et,
oui, oui, exactement.
Et plus complexe comme
exactement.
Personnage.
Oui, bien sûr,
être complètement. Être à la fois chanteur et acteur, c'est le modèle.
Oui.
Et de Funès, ça s'est passé comment ?
Très bien.
On dit quelquefois qu'il n'était pas facile.
Il n'était pas facile, mais il n'était pas désagréable. Il était simplement... D'abord, c'était un timide, très bien élevé. Donc déjà, dans la vie, il avait une petite retenue.
Oui.
Il se lâchait quand on disait moteur, c'était exceptionnel. Pour moi, c'est un génie comique.
Un génie comique.
Et
vous savez que Le Gendarme et les Gendarmettes, c'est le film préféré de Michel Houellebecq.
Ah oui. Sans blague.
Je le connais, j'ai vu regarder ça pendant des heures, en boucle.
C'est drôle, ça.
Voilà, film référence.
Oh, ça c'est drôle.
Où vous jouiez le rôle...
Du maréchal des logis Perlin.
Voilà. Quelques-uns de vos si nombreux souvenirs de cinéma. Avant de parler du théâtre, Patrick Préjean, on va écouter Count Basie.
Ah. Le swing, le son Basie.
Ouais, oh là, je vois vos yeux qui brillent.
Ah oui, parce que c'est un son particulier dans le jazz.
April in Paris.
In Paris.
Thank you.
Alors là, j'ai vu le passionné de jazz devant moi. J'aurais voulu que les auditeurs soient dans le studio parce que
quoi,
de la première à la dernière note, là, vous remuez, vous dansez, vous connaissez tout ce qui va arriver.
Le swing, c'est merveilleux.
Ah oui, mais c'est Count Basie, c'est votre numéro un ou on pourrait discuter le Duke, Louis.
C'est magnifique aussi. Mais oui. Bon, il fallait les disques que je vous ai choisis. Ce sont les disques symboles de ce qui m'a donné le goût, en général, le goût de la musique.
Oui.
Et les voix aussi. Mais sans quoi, j'aurais pu en choisir 10 000. Lionel Hampton, mon premier concert de jazz à l'Olympia, ouais, en 58.
C'était un spectacle, là, aussi. Hein.
Où le rideau était fermé, on entendait... Derrière, et le rideau s'ouvrait, l'orchestre était déjà en train de jouer. Vous imaginez mes yeux écarquillés.
Benoît Dutertre, étonnez-moi Benoît. France Musique.
Patrick Préjean, oui. Un de vos disques, on n'aura malheureusement pas le temps d'écouter aujourd'hui, mais vous allez nous dire quand même pourquoi vous l'aviez choisi, c'est Turandot.
Ah, parce que la voix de Pavarotti est aussi une voix sublime.
Oui.
Et magique et ouais, presque divine.
Ouais.
Et quand j'ai écouté cette voix-là, ça m'a donné les larmes aux yeux. Dès que j'entends Pavarotti, je suis parcouru d'un frisson. Je trouve que c'est une des plus belles voix qu'il m'ait été donné d'entendre. Et c'est un accès pour moi au classicisme et à des choses que je connaissais moins.
Alors, à propos de voix, je voudrais qu'on dise un mot, parce que c'est un art particulier, au fond, qui a quelque chose de musical, de la voxo,
oui,
de votre doublage, voxographie,
du doublage
de films, de séries, etc.
Oui,
j'étais
oui,
impressionné par le nombre de personnages que vous avez joués, et parce qu'il y a, j'ai vu un petit film où il y a plein d'extraits doublés par vous de différents personnages, et par la variété des voix aussi que vous faites, comme si vous aviez une palette de voix.
Pas forcément une palette de voix aussi grande que nos imitateurs, que Michel Lemle et que Laurent Gérard. Mais bon, je me déplace un peu.
Oui, vous pouvez prendre des caractères très différents.
Et comme il y a l'image qui est sur cette voix, ou plutôt cette voix qui est sur l'image, ça aide à la crédibilité du téléspectateur.
Comment vous modelez? C'est en fonction du physique du personnage,
oui,
ou en fonction du modèle d'origine, si
pas toujours, pas toujours. C'est en fonction aussi un peu du respect du modèle étranger.
Oui.
Mais il nous arrive des fois de faire de la création de voix, c'est-à-dire que le dessin animé est composé après. On enregistre d'abord la voix de personnages en situation, et après, les dessinateurs viennent cerner tout ça et faire le dessin sur la voix.
On peut citer alors quelques-uns de vos personnages. Alors d'abord, dans le vrai cinéma...
Oui,
par exemple.
Oui. Oh ben, Brendan Gleeson, Elliot Gould, Steve Martin dans La Panthère Rose,
voilà, etc., etc. Les Blues Brothers,
les Blues Brothers aussi. Dan Aykroyd.
Et oui, bien
et
sûr.
C'est un bon souvenir puisque on a enregistré une des chansons en français. Ce qui est assez rare, car des fois, on laisse les chansons dans la langue originale. Et là, sur la fin du film, on a enregistré une chanson en français.
Il n'y a pas un dessin animé où vous avez pu chanter du Count Basie, justement,
si,
aussi? Ah
ben
justement.
Tigrou.
Tigrou.
Basie, c'est moi.
On va vous retrouver, allez, quelques secondes de Tigrou et de Gros Minet, que vous avez fait aussi pas mal. Hein.
Après, c'est faux. Gros Minet, c'est moi. Je vais tasser le micro.
Eh bien, il y a deux signes très distincts diffusés. Mais vois-tu, chez une méduse, c'est plus du genre... Salut, moi, c'est la méduse. Enchanté.
Tigrou, Winnie.
Oh, une autre créature du genre férocité.
Coucou lapin, Vérezou.
Le porcinet qu'on connaît est moitié moins épais que toi. Tu ne nous feras pas prendre des porcinets pour des lanternes. Cette fois, je suis sur la bonne piste de mon petit casse-croûte à plume.
Défier la mort en survolant le vide.
Non. Oh, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ça suffit. Thérapie. Ça, on s'en est tiré. Hein.
Ça vous amuse à faire ou c'est très difficile, fastidieux
Non, c'est pas fastidieux. C'est parfois besogneux, car pour arriver au plaisir, il faut beaucoup de besogne quand on est artiste, contrairement à ce que les gens pensent.
Oui, bien sûr, pour arriver à avoir l'air simple.
Exactement.
Patrick Préjean, voilà encore en tout cas un aspect de votre talent. On n'a pas encore beaucoup parlé de théâtre. Alors finalement, pour vous, votre plus grand plaisir, c'est d'être sur un tournage de cinéma ou sur un plateau de théâtre?
C'est un petit peu plus le plateau de théâtre.
Ah oui.
La scène. Alors ben, c'est le contact direct, c'est être en phase avec les gens qui sont venus pour oublier, pour penser ou pour réfléchir. Il y a à transmettre un millier de sentiments, c'est très très excitant.
Avec d'abord, alors je le dis parce que moi j'y tiens beaucoup, vous avez été un de ceux, même quand c'était plus pas bien vu par nos grands critiques, à continuer à faire du boulevard, du bon théâtre comique,
bien sûr,
un peu à la française, dans le sillage de Feydeau, de Guitry, de ce que vous aimez. Vous avez beaucoup défendu ce théâtre-là.
Mais beaucoup, beaucoup, je le défendrai toujours.
Oui. Ça change un peu aujourd'hui, le climat est moins hostile, on dirait,
à
Feydeau ou à Guitry, en tout cas.
Exactement. Je suis contre les castes et les raisonnements arbitraires. Il y a deux choses qui comptent pour moi à ne pas faire. C'est la vulgarité et l'ennui.
Voilà.
Après, tout existe et tout est respectable si c'est bien fait.
Vous avez joué Kadri, vous avez joué le Dindon.
Oui,
vous avez...
Et
c'est quoi le plus difficile, c'est Guitry ou Feydeau?
Ah, physiquement, c'est Feydeau.
Oui.
Mais au niveau du texte, Guitry, c'est très compliqué, car il fait des phrases qui durent des heures.
Ah, oui.
Et il y a beaucoup plus de virgules que de points. Et ça... Il faut une technique de base très élaborée. Mais pour jouer Feydeau aussi, il faut...
Ouais.
Ce sont des théâtres magnifiques et qui sont très techniques. Mais quand je dis technique, bien évidemment, la technique est au service de la crédibilité et du sentiment d'un personnage. Et si elle se voit, c'est de la mauvaise technique.
Bien sûr.
Si on dit d'un acteur, oh, qu'est-ce qu'il articule bien, c'est cuit, c'est fini. C'est plus bon.
Il y a un renouvellement aujourd'hui de ce théâtre comique dans la tradition du vaudeville ou
oui.
C'est...
Oui. Là, actuellement, je suis au théâtre Hédiard et nous avons en première partie ou en deuxième partie, parce qu'on inverse une semaine sur l'autre, un autre spectacle, comme ça se fait dans beaucoup de théâtres parisiens maintenant, qui s'appelle Oui, et c'est de l'excellent boulevard.
De l'excellent boulevard d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, voilà.
Mais vous avez adoré aussi, alors dans un genre complètement différent, c'était pas loin d'ici, à la maîtrise de la radio, au Ranelagh, jouer Cyrano de Bergerac. Ça a été pour vous un moment très important.
Vous savez, c'est... Quand on arrive, si je puis dire, le jour où on arrive à voir plus loin que le bout de son nez, c'est gagné.
Ça, c'était au Ranelagh. Vous êtes retourné d'ailleurs pour une pièce d'Obaldia reprise.
Au Ranelagh, il n'y a pas longtemps.
Voilà.
Il y a trois ans.
Du vent dans les branches de Sassafras.
Oui.
Il y avait aussi un peu de chansons d'ailleurs.
Il y avait un peu de chansons dedans. Il avait traité ça un peu comme une opérette. Et ça, le public adhérait complètement.
Alors, revenons encore quelques minutes avant de parler du Schmilblick à la musique, donc justement, Patrick Préjean.
Oui.
On a cité tout à l'heure le spectacle d'Aznavour et Frédéric Dard, Monsieur Carnaval. On pourrait quand même rappeler que vous avez aussi chanté dans Bon Week-end Conchita, avec Maté Alteri.
Et Franck Fernandel.
Oh là là.
Et Jean Raymond.
Ça, c'était en 1970.
Mais oui. Avec tous les spectacles dont vous me parlez, j'ai l'impression d'avoir 198 ans.
Jean-Jacques Gauthier n'avait pas aimé. Hein.
Ah, Jean-Jacques Gauthier n'avait pas... On avait eu une générale formidable, la salle était enthousiaste. On avait eu nombre de rappels. Et le surlendemain, il y avait une critique d'un journal de Jean-Jacques Gauthier disant « Quant à Franck Fernandel, il a le nom de son père et Patrick Préjean, le nom du sien. Point !» On est tombé de notre piédestal.
Ah oui,
ça fait très mal.
C'était pas gentil.
Ça fait très mal.
Et puis alors, quelques années plus tard, vous avez chanté Ta bouche dans une super production avec quand même Perrette Souplex, Bernard Lavalette, Caroline Claire,
qui étaient
tous là. Je crois que c'était une des meilleures productions de Ta bouche.
Ah, c'était extraordinaire, Ta bouche. Mais enfin, vous ne me citez que des choses qui m'ont rendu profondément heureux.
Caroline Claire
est une...
Qu'on salue aussi.
Que je salue, est une des interprètes qui m'a donné des conseils très précieux pour me comporter dans les chansons.
On retrouve tout de suite un tout petit morceau de Tabou, justement le rôle que vous chantiez, Jean,
oui,
le domestique avec sa partenaire.
Marquez le niveau du vin, comptez le sucre raisin, morceau par morceau et grain par grain, quelle existence!
Savoir qu'on était pillé et qu'on n'est jamais le premier à lire ses journaux et son courrier. En quelle engeance, si l'on pouvait,
si l'on savait,
se passer d'eux,
qu'on serait heureux.
Ce que tout serait moins agaçant
sans les domestiques,
et la vie gagnerait 100%
sans les domestiques.
Ce qu'on se ferait moins de mauvais sens
sans les domestiques.
Ce sont de ma foi
qui vous font la loi, c'est vraiment la plaie chez soi. Ces gens-là, c'est vraiment la plaie chez soi. Tout le temps se tracasser, se dire qu'est-ce qu'ils vont casser. Le verre de l'ampoule, verre bras passé, à quelle torture!
Quand on sait ce qu'elle coûta, voir toute l'argenterie qu'on a, cuillère par cuillère filée à la boîte aux ordures, quelle choléra!
Que ces gens-là,
disons le mot,
c'est des chameaux!
Oh!
Oh!
Ce que tout serait moins agaçant
sans les domestiques,
et la vie gagnerait 100%
sans les domestiques.
Ce qu'on se ferait moins de mauvais sens
sans les domestiques.
Ce sont de ma foi
qui vous font la loi,
c'est vraiment la plaie chez soi.
Ces gens-là, c'est vraiment la plaie chez soi.
Ta bouche de Maurice Vivard. C'était pas vous là.
C'était pas moi.
Patrick Préjean, c'était Pierre Héral et Souris dans cet enregistrement des années 50 d'une des opérettes que vous avez jouées. Vous avez aussi chanté La Belle Hélène.
J'ai osé chanter La Belle Hélène.
Enfin, pas le rôle d'Hélène,
hein. Non, parce que je peux faire beaucoup de choses avec ma voix, mais là, ça serait peut-être un petit peu exagéré.
C'était quoi?
Je jouais Achille.
Ah.
Je suis
le bouillant Achille. Hein.
Je crois que j'ai jamais eu autant le trac de ma vie.
C'est vrai?
Oui.
C'était plus, où?
C'était un spectacle qui était financé par le Conseil Général du Nord.
Voilà.
Mis en scène par Jean-Claude Calon. Très joliment mis en scène. Production, il y avait tout ce qu'il fallait. Et il y avait le Grand Orchestre d'Europe, dirigé par Olivier Holt.
Eh oui, Olivier Holt.
Qui est un type plein de talent et tellement sympathique.
Vous aviez travaillé avec son oncle Jean-Claude Cazadesus dans Monsieur Carnaval.
Exactement.
Et avec Olivier, dans La Belle Hélène.
Et notre doyenne Gisèle est toujours bon pied, bon œil, pleine de charme.
Et donc, pourquoi vous aviez plus le trac pour La Belle Hélène que pour Ta Bouche ou pour Monsieur Carnaval?
Parce que j'étais au milieu de vrais chanteurs.
Ah, voilà, je comprends.
De vrais chanteurs à voix. Et j'arrivais avec mon petit palmarès théâtreux, cinémato-théâtreux, hein. Et j'avais une trouille terrible.
Je comprends.
J'avais les jambes qui flageolaient autant que la glotte. Et devant cet orchestre, c'est très impressionnant.
Bien sûr.
Par contre, c'est très vivifiant d'être derrière le rideau avant de commencer à jouer et d'avoir un orchestre de 60 musiciens qui commence l'introduction. Ça vous donne une pêche pour la suite, c'est formidable.
Alors en ce moment, donc, vous êtes au théâtre Edgar à Montparnasse, dans le Schmilblick.
Oui.
Je dois dire d'ailleurs que moi, j'étais persuadé que le Schmilblick, c'était une invention de Coluche pour son fameux sketch.
Eh ben non.
Le Schmilblick, c'est une invention de Pierre Dac et je l'ai découvert grâce à vous.
Oui, c'est une invention de Pierre Dac. Il avait écrit un sketch qui s'appelait le Schmilblick et d'abord Guy Lux avait acheté les droits, voilà, ou les avait loués pour un certain temps pour son émission et Coluche en avait fait un sketch.
Voilà. Et Jacques Pessis, donc, en a tiré une pièce où il a mis d'autres textes de Pierre Dac.
Il a mélangé, il a fait une sorte de composition de textes absolument incroyable, ouais, en écrivant une très jolie histoire.
Voilà, ça se tient comme une pièce. Hein.
Autour de ça, sur deux êtres qui sont en quête de quelque chose, l'un arrive sur Terre parce que dans son pays imaginaire, à autre lieu, qui est la capitale du côté d'ailleurs, le Schmilblick est tombé en panne.
Voilà.
Le Schmilblick qui peut servir à tout et à n'importe quoi. Et Il a donné rendez-vous dans un square à ce personnage qui est un peu paumé, que joue, qui s'appelle Gédéon Burnemauve.
Voilà.
Et il faut le faire, j'ai quand même passé de Cyrano de Bergerac à Gédéon Burnemauve, c'est pas donné à tout le monde.
On écoute quelques petites secondes de Pierre Dac, là, dans une chanson. On va pas l'écouter, parce qu'il chante vraiment faux. Avec son compère Francis Blanche. Voilà.
Mesdames, messieurs, c'est en tant que secrétaire généraux d'un grand parti en gestation que nous sommes venus dans cette enceinte pour accoucher d'un vaste programme.
Le parti d'en rire, dont nous avons la fierté et l'honneur d'être les porte-paroles.
Et les porte-cochères.
Je l'avais déjà dit.
Merci.
Il n'y a pas de quoi. Va par le truchement de notre intermédiaire vous faire connaître ces principes.
Pour leur donner plus de chaleur et d'harmonie, nous allons vous les présenter sur les motifs du célèbre Brasero de Ravel.
Le bras zéro, sourire si doux.
Dont nous nous sommes assurés l'exclusivité.
Voilà.
Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
De prendre la tête d'un parti,
parti d'Henri,
qui soit un peu comme un nombril. Un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti. Oui.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie s'est partie. J'ai compris qu'il faut être en parti, réparti, tous en un seul parti, notre parti.
Voilà, j'arrête là parce qu'il a vraiment du mal, hein, Pierre Dac, avec la mélodie, mais c'est formidable. Surtout en période électorale, il faut toujours réécouter cette chanson.
Ben moi, j'ai eu beaucoup de mal avec son texte, en tout cas, parce que c'est redoutable à apprendre.
Oh, il y a des trésors. J'ai retrouvé, par exemple, ça que dans votre spectacle que j'aime beaucoup. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne.
Hein. Vous parlez pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.
Voilà. Il y a des quantités de perles comme ça dans le spectacle, mais en même temps, le spectacle est plein de fantaisie, d'imagination et se tient comme une histoire, ce qui est très réussi. Patrick Préjean, donc tous les soirs au Théâtre Edgar avec votre compère Jérémy Prévost.
Qui est un type formidable, beaucoup de talent et qui a aussi le talent de l'amitié.
Ça, c'est jusqu'au début du mois de janvier et peut-être au-delà ?
Peut-être, on va voir. Si ça continue à avoir du succès, les portes peuvent être... elles sont entrouvertes, elles peuvent s'ouvrir davantage.
Vous y êtes heureux tous les soirs, en tout cas. Vous retrouvez cette pièce chaque jour avec une
fraîcheur. Oui, parce qu'on a presque une mission. Oui. On a des choses à transmettre. On a cette forme de folie, d'absurdité, de loufoquerie à communiquer.
Ça faisait penser à du billard par instant.
Oui, un peu.
Un peu loufoque
mais,
comme ça.
Pierre Dac est le papa des Raymond Devos, de Bobby Lapointe, de Desproges, d'Albert Mellet, de tous ces gens-là, dont Ben, actuellement, Arnaud de sa mère, sont les petits-fils.
Voilà.
Et ça se reprend beaucoup, ce genre d'humour. Et on en a énormément besoin, parce que c'est grisou en ce moment.
Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Vous savez ce que vous allez faire après ?
Après,
après
l'émission, parce que après ça ma vie privée, je ne vous dis rien. Après, je vais être récitant avec le cercle musical de Gennevilliers. Vous savez, il y a grande maison de la culture là-bas où nous allons donner pendant quelques jours fin janvier. Mais à des heures qui pourraient correspondre aussi avec le théâtre Édiard, Pierre et le loup de Prokofiev et le carnaval des animaux de Saint-Saëns.
Et vous serez le récitant.
Et je serai le récitant et je me suis jamais essayé encore à cette discipline-là et c'est nouveau pour moi. Donc je gravis encore une petite marche que je connaissais.
Formidable. Alors c'est très bon pour les auditeurs de France Musique en plus.
Oui.
Merci Patrick Préjean d'avoir été avec nous. On va se quitter. Vous nous avez parlé de la musique brésilienne tout à l'heure avec un artiste que vous aimez beaucoup.
Oui, George Eben, c'est mon symbole de la fête. Je trouve que la musique brésilienne est pleine de charme, de poésie. Il y a des mélodies absolument exceptionnelles. Et puis, il y a cet enthousiasme, cette façon de vivre, cette façon de prendre la vie et les notes à bras-le-corps, comme ça, avec une certaine sensualité. Ça me plaît beaucoup aussi.
Eh bien, merci beaucoup.
Je suis très éclectique, vous savez.
Je vois. On a passé un bon moment avec vous, en tout cas.
Également, je vous remercie.
À bientôt.
À bientôt.
Está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor.
Meu amor!
Pois ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despenteada. Que maravilha! Que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários de automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. E ela vem chegando de branco, meiga, pura, linda e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo lindo, que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua do mundo, no meio da chuva, a girar.
Que maravilha!
Que maravilla, Georges Ben, choisi par mon invité Patrick Préjean. Patrick Préjean, que vous pouvez donc retrouver au théâtre Edgar à Paris, boulevard Edgar Quinet, tous les soirs sauf le lundi, dans le Schmilblick, comédie loufoque d'après Pierre Dac, adapté par Jacques Pessis, mise en scène par Luc Hamet. Le Schmilblick, c'est jusqu'au 7 janvier, tous les jours sauf le lundi. Attention, il y a des jours c'est à 19h, d'autres jours à 21h, à bien vérifier donc sur internet, le Schmilblick avec Patrick Préjean. Quelle est jolie cette polka mazurka et quelle est bien jouée surtout par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer qui a consacré tout un disque à Walter Eiffel, le musicien français du Second Empire. Là, c'était donc une polka mazurka intitulée Bella. Et avant de nous quitter, je vous propose une archive, une petite merveille que les auditeurs m'ont souvent réclamé. C'est l'intégralité du pot pourri d'Alain Gerbeau, chanté par Yvonne Printemps. Comme ça sont deux faces de 78 tours enchaînés, on a rarement le temps d'écouter tout en entier. Mais surtout, j'ai aussi retrouvé pour vous un petit document de 1948 où Yvonne Printemps elle-même nous explique la naissance de ce merveilleux enregistrement qui a eu beaucoup, beaucoup de succès avant la guerre.
Allô ? Allô ? Allô, madame Yvonne Printemps ?
C'est moi-même.
La radiodiffusion française, madame, voudrait faire à nouveau entendre une production qui a été parmi les délices d'avant-guerre, le pot pourri d'Alain Gerbeau. Dans quelles circonstances ce petit ouvrage a-t-il été conçu ?
C'était dans une revue au Théâtre de la Madeleine. C'était l'époque où Alain Gerbeau venait de traverser l'Atlantique sur un tout petit bateau. C'était un exploit prodigieux, n'est-ce pas ? Mon ami Albert Villemetz a eu l'idée d'en faire un pot pourri. Il me l'apporte et c'était vraiment étonnant ce qu'il avait trouvé comme choix d'air, comme grâce de mots. Enfin, c'était vraiment très joli. Nous le montons, on le joue dans cette revue et on me demande de l'enregistrer. Je refuse parce que le décor était si joli, ça se passait dans la nuit, avec beaucoup d'étoiles, tout dans un grand rideau bleu et l'avant simplement d'un petit bateau qui fendait les flots. Moi, accroché dans les cordages et chantant le pot pourri. Je refuse, pensant que le côté visuel ajoutait beaucoup à la chanson. Et puis, pendant 3 ans, on me l'a si gentiment demandé que j'ai fini par le faire. Et j'ai eu raison, puisqu'on a fait un si charmant accueil à cette chose que d'ailleurs j'aime beaucoup.
Elle n'est ni brune ni blonde. petit souvenir qui m'empêche de jamais, 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 jamais revenir. Trop de choses m'ont blessé, dont le souvenir va s'effacer. Je préfère n'y jamais, 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 jamais repenser. Hypocrisie, jalousie, calomnies et vilainies, trahisons et marchandages, combinaisons, tripotages. Il y a des souvenirs, certains petits souvenirs, qui m'empêchent de jamais, 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 jamais revenir. Paris de loin suit mon voyage, et quand je disparais 6 mois, dit chez les anthropophages, les journaux jabotent sur moi. Il court sûrement de grands dangers, s'il n'est pas déjà naufragé, c'est que les sauvages l'ont mangé. Sa goélette, l'avez-vous vu? Où ce qu'est passé à la gerbeau? Fut-il la proie des cachalots? Sa goélette, elle est perdue. Pendant ce temps-là, je pêche la morue. Et bien des gens qui sont des freins, disent-ils, nous l'a fait à la faune. Il a beau faire le marin, il lui manque tout de même quelque chose. Ah, s'ils veulent parler de l'amour de nos jours, de toutes les prisonnières, ces jeunesses qui ne sont ni filles ni garçons, je préfère m'en passer et n'y plus repenser assez.
Je veux la
des pures merveilles du 78 tours, le pot-pourri d'Alain Gerbeau, arrangé donc, elle nous l'a expliqué, par Albert Wilmetz pour Yvonne Printemps, qu'il a enregistré à Paris, salle Chopin, le 7 janvier 1931. J'ai la chance, comme quelques autres, d'avoir sans doute le disque original 78 tours, mais fort heureusement, il a été reporté un certain nombre de fois en CD. Voilà une chose qu'on ne se lasse pas d'écouter. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Thibaut Nassimben avec Jean-François Souvilly, réalisation Perrine Minguy. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. J'aurai la joie d'accueillir la chanteuse et comédienne Dani. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.